Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Aujourd'hui, c'est moi, Esther, au micro, et je reçois Caddy et Léonore Johannes. C'est une interview un peu particulière, parce que les conditions techniques et matérielles pour nous rencontrer n'étaient pas réunies. Et pour cause, Caddy et Léonore Johannes vivent en Guyane. On ne pouvait donc pas être face à face. De plus, lorsque nous avons échangé, il n'était pas possible techniquement d'enregistrer à distance par visioconférence. Vous allez voir que cela affecte la qualité du son, mais s'il vous plaît, ne quittez pas immédiatement ce podcast pour autant. Ce que Caddy Léonore Johannes a à dire est très important. Elle est à la fois porte-parole du collectif Hors de Question, qui lutte contre l'industrie minière en Guyane, et aussi présidente du collectif des Premières Nations. Elle se bat donc pour faire reconnaître les droits de son peuple, des peuples autochtones de Guyane, par la France. Nous avons parlé cyanure, colonisation, histoire, et je vous garantis qu'elle est passionnante. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler d'Hors de Question. Quel est ce collectif ?
Le collectif Hors de Question s'est organisé pour lutter contre les projets industriels, minières notamment. Ça s'est mis surtout en place au moment où la compagnie Montagne d'Or voulait s'implanter en Guyane.
Pour rappel, la compagnie Montagne d'Or, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est ?
Alors, c'est deux consortiums canadiens et russes qui ont déposé un permis d'exploration sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni entre deux réserves biologiques intégrales, donc en promettant monts et merveilles.
Et donc, comment est-ce que vous vous êtes organisé sur le sujet ?
Par un lanceur d'alerte qui nous a averti que cette compagnie avait l'intention de s'installer sur la Guyane. Et à partir de là, Mayuri Nature a fait appel à toutes les associations volontaires engagées qui voulaient lutter contre l'implantation de cette multinationale.
Parce qu'en quelque sorte, cette multinationale donc, voulait créer un projet de mine d'or. Alors celui qu'elle avait en tête, Montagne d'Or, a été annulé, en fait, il me semble.
Disons que le président de la République s'y est opposé grâce à notre mobilisation en Guyane, les Guyanais, mobilisation nationale et internationale. Mais ça a été stoppé, mais cela ne veut pas dire que ça a été définitivement enterré parce que Montagne d'Or a changé de nom. Ce n'est plus la société Montagne d'Or, c'est une autre société qui porte un nouveau nom.
Et qui mène à le même projet, donc, ou c'est un autre projet ?
Qui essaie de mener le même projet, mais en modifiant, en disant que ce sera plus, comment dire, plus vert, plus au regard, que l'environnement sera pris en compte.
Donc, si je comprends bien, les gens qui sont derrière le projet Montagne d'Or ont été contraints d'abandonner ce projet et proposent aujourd'hui, à la place de Montagne d'Or, un autre projet de mine en Guyane, en vantant un aspect plus environnemental.
Plus écologique, voilà, c'est ça.
Alors que dans les faits, c'est davantage du greenwashing qu'autre chose, c'est ça ?
Voilà, exactement. Ce nouveau projet se fait. Et même les autres projets miniers qui sont déjà en cours, dont je parle de la mine Espérance, c'est tant que le cyanure Ils vont utiliser le cyanure. Donc, le cyanure, on sait très bien que c'est du poison. Du poison pour tout le monde, pour l'environnement.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi est utilisé du cyanure dans ces projets miniers?
Les projets miniers, c'est-à-dire que ça va en profondeur. Ça extrait des roches qui sont en profondeur, ça les explose. Et la quantité d'or qui se trouve dans les rochers sont infimes. Et pouvoir les amalgamer, pour pouvoir les sortir, il faut du cyanure. La roche sera d'abord broyée et ensuite la récupération se fera à l'aide de bassins de cyanurisation.
Donc ça, c'est un des aspects à cause desquels les projets miniers posent un danger à l'environnement. Est-ce que vous pouvez expliquer plus globalement quels sont les impacts d'une mine, quels seraient les impacts de cette mine sur votre territoire en Guyane?
D'abord, il faut penser à la déforestation, parce que ce sont des hectares et des hectares de forêt qui seront déboisés. Le président de la République se dit défenseur de l'Amazonie et qui laisse déforester des milliers d'hectares en Guyane. Je dis qu'il y a un souci quelque part. Déforester, ça veut dire toute la biodiversité sera détruite, les animaux seront en danger, les eaux seront polluées. Déjà que nous sommes pollués, que la Guyane est polluée, les rivières de Guyane sont polluées par le mercure. Ajouter le cyanure en plus, c'est la catastrophe environnementale.
Et le mercure, lui, il vient d'où donc?
Le mercure vient des orpailleurs illégaux qui l'utilisent toujours, bien que ça soit défendu. Mais l'orpaillage illégal existe en Guyane et c'est la catastrophe, ça pollue les eaux. Et les plus impactés, ce sont les habitants de l'intérieur, bien que maintenant, de plus en plus, les orpailleurs ne se gênent pas pour être au plus près des communes. Donc, les eaux sont polluées, les eaux sont troubles. Avant, c'était très clair, on pouvait voir le fond d'une rivière, on pouvait voir les poissons, et là, plus maintenant.
Et tout ça, c'est à cause de l'orpaillage illégal?
De l'orpaillage illégal, oui, qui utilise le mercure, et les peuples de l'intérieur sont les plus impactés parce que le mercure pollue les eaux, pollue les poissons. Ils ne peuvent plus consommer du poisson. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, manger des boîtes de conserve, manger du surgelé.
On les prive, en fait, de leurs ressources primaires.
Voilà, exactement. Et pareil, l'orpaillage illégal, ça détruit la forêt. Et les orpailleurs illégaux s'installent dans les forêts, dans leurs forêts où il y a leur subsistance. Ils ne peuvent même plus cultiver. Ils ne peuvent plus aller chasser. Je sais que la France fait un effort pour éradiquer cet orpaillage illégal, mais ce n'est pas suffisant.
Et donc, concernant cet orpaillage illégal, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça marche? Parce que je pense que c'est une expression qu'on entend régulièrement, orpaillage illégal en Guyane. On sait effectivement qu'il y a quelques opérations qui sont menées pour lutter contre ce phénomène, mais je pense qu'on ne sait pas concrètement en quoi ça consiste et comment ça affecte vos communautés, vos territoires.
Il faut savoir que la Guyane se situe à des frontières avec le Brésil et le Suriname. Alors, ces orpailleurs illégaux peuvent venir du Brésil, donc sur le haut Oyapock, du Suriname sur le haut Maroni. Donc ils s'installent surtout sur les berges des rivières pour récupérer l'or dans le sable qui amalgame avec du mercure et les déchets sont rejetés dans les rivières. Autour de cet orpaillage illégal, il y a beaucoup de gens, de personnes qui s'installent aussi. Ça va entraîner le trafic. Trafic d'engins, trafic d'essence, et ça entraîne aussi la prostitution.
Donc ça a des conséquences sociales, environnementales, sur la Guyane, cet orpaillage.
Voilà, effectivement.
Pour revenir un petit peu au projet de mine contre lequel se mobilise Hors de Question en particulier, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent que l'exploitation des mines, elle est nécessaire pour le développement économique de la Guyane?
Je leur réponds que la Guyane a tellement de potentiel qu'on n'a pas besoin d'aller forer, de faire exploser la terre. que nous avons assez de biodiversité, nous avons des forêts que l'on peut mettre en valeur, nous avons des rivières que l'on peut protéger et qui peut nous nourrir. Nous n'avons pas besoin d'or, mais c'est une question de volonté de l'État et des représentants de l'État sur la Guyane. Ils disent toujours que oui, on met la Guyane sous cloche, mais rien n'est fait pour développer les potentialités de la Guyane à part la mine. Mais c'est une histoire qui dure depuis... J'ai l'impression que ces compagnies minières sont toujours à la recherche de l'Eldorado. On est toujours à ce stade-là. Alors que l'Eldorado, la Guyane, il y en a. Il n'y a pas que l'or. L'or c'est une pierre qui est sous terre. Et je pense que la France doit avoir une réserve d'or suffisante. Et qu'est-ce qu'il va faire de cet or? Retirer cet or-là? Combien va revenir à la France selon le code minier? 2%. 2% pour la Guyane. Alors qu'on peut développer l'artisanat, l'agriculture qui en a tellement besoin pour que les Guyanais soient suffisants. Ça peut apporter du travail aux jeunes, à tout le monde. Et tout le monde peut en bénéficier.
D'autant plus qu'il y a... Enfin, c'est vraiment pas des mots en l'air. Vous apportez aussi des preuves de ce que vous dites. Notamment dans un des derniers communiqués d'Hors de question, vous parlez du rapport Deloitte qui explique ces autres pistes de développement beaucoup plus respectueuses des peuples et des territoires qui vivent en Guyane.
Mais oui, exactement. Le rapport Deloitte met en tête le tourisme et l'agriculture. Et en dernier vient l'exploitation minière. Et puis j'ai l'impression que le gouvernement ne comprend pas. Reste toujours, ou peut-être qu'il y a les pressions des industriels miniers. Ils font pression sur le gouvernement pour pouvoir toujours accorder des permis. Tous les mois, il y a des permis, des demandes de permis d'exploration.
Et actuellement, il y a des mines qui sont en état de fonctionnement en Guyane, qui fonctionnent?
Oui, il y a la mine Espérance, qui a eu le feu vert de l'État.
Depuis quand?
Deux ou trois mois, je crois. Mais de toute façon, c'est passé il y a quelques mois de ça, nous étions encore à la commission des mines et il y a eu vote pour la mine Espérance qui a eu un avis favorable pour l'exploitation au cyanure.
Donc ça, c'est la mine Espérance. Il y en a d'autres qui risquent donc de se développer dans les mois à venir, si je comprends bien.
Oui, surtout dans la région de Saint-Laurent. De Saint-Laurent, maintenant, il y a des mines. Surtout, ce ne sont pas des mines artisanales. Ce sont surtout des mines industrielles qui vont s'exploiter. Et ce ne sont pas des mines des industriels français. Ce sont toujours des étrangers, Canada, Russes. Ils ont déjà déposé des hectares et des hectares de loin de permis.
Comment vous expliquez donc le fait de ne pas être entendu malgré tous les arguments que vous avancez, de ne pas être entendu par le gouvernement?
Ça, je ne comprends pas. Je rayonne lorsque j'entends le président de la République qui se dit défenseur de l'Amazonie, qui va s'ingérer dans les autres pays et ne prend même pas en compte qu'il a un département français en Amazonie. On nous envoie des subventions, mais on ne fait rien pour aider au développement de la Guyane.
Si je relis ça à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Eldorado, en quelque sorte, c'était cette idée au moment de la colonisation qui s'est déroulée dans le continent sud-américain. Et en fait, là, ce que vous décrivez aujourd'hui, c'est la continuation, quelque part, de cette colonisation.
Voilà, exactement, c'est l'Eldorado moderne, toujours à la recherche de cet or que l'on dit immense en Guyane.
Merci beaucoup. Je voudrais revenir maintenant sur un peu plus sur votre parcours, même si on va continuer à aborder ces questions. J'aimerais aborder votre première indignation, si vous vous souvenez, ce qui vous a amené en tant que jeune femme, en tant que petite fille peut-être même, à vous indigner, à vouloir vous mobiliser.
Oh, je pense que mon indignation doit remonter à l'enfance, mais l'indignation est venue de plus en plus fort quand vous vous rendez compte que vous faites partie d'un peuple, puis j'appartiens au peuple Kalinia de Guyane. J'ai été élevée de ma plus tendre enfance dans les hommes indiens. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un homme indien. Cela veut dire qu'on obligeait les parents amérindiens à mettre leur enfant le plus tôt possible dans ces espèces d'internat qu'on appelle hommes indiens pour que ces enfants soient élevés en bons petits français et en bons petits chrétiens, et en nous défendant de parler notre langue. Et quand je me suis aperçue que je comprenais bien ma langue, mais qu'il m'était difficile d'entretenir une conversation correcte avec mes parents, ça a été d'abord de la tristesse, puis de l'indignation. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est pour cela qu'en sortant de l'université, enfin, j'ai été enseignante, j'ai enseigné pendant 20 ans. J'ai fait une licence de langue et culture régionale, croyant qu'à l'université, j'aurais approfondi ma langue, mais ce n'était pas le cas. C'était apprendre le créole. Mais j'ai quand même fait cette licence. Et en sortant de là, je disais, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai créé ma première association, qui s'appelle Kalalawa. C'est une association culturelle pour transmettre les savoir-faire des Amérindiens, surtout des Kaliniens, et transmettre la langue d'abord pour moi. C'est-à-dire, c'était une façon de me réapproprier ma langue et une façon de pouvoir transmettre cette langue. Voici ma première indignation. Après, j'ai continué. Donc, ma deuxième indignation, c'est quand j'ai appris que Montagne d'Or allait s'installer sur le territoire de Saint-Laurent, entre deux réserves biologiques intégrales et sur un site archéologique où on a découvert que pendant plus de 500 ans, des peuples amérindiens étaient venus là. Les fouilles archéologiques ont montré des montagnes couronnées. Il y en avait 9 montagnes couronnées. C'est-à-dire que ce site a été habité et que ce site a une histoire. Et que Montagne d'Or, bien qu'il disait « oui, nous allons faire attention, nous n'allons pas toucher aux montagnes couronnées », mais c'est quand même notre histoire qui se trouvait là. Et comme je disais aux représentants de l'État, déjà que les Amérindiens ne connaissent pas leur histoire n'est pas étudiée, n'est pas transmise, et on va encore détruire une partie de notre histoire qui aurait pu apporter davantage de connaissances sur notre histoire. Et comme je dis, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Ça, c'est ma colère, c'était mon indignation.
On l'entend bien dans votre voix, même si c'est au téléphone. Est-ce que vous avez l'impression que les combats que vous menez, ils sont politiques?
Bien sûr, nous luttons, nous nous battons pour que les peuples de Guyane, les peuples amérindiens de Guyane, les peuples autochtones de Guyane, je préfère, soient reconnus officiellement par la France, qu'ils ratifient la Convention 169 de l'OIT. Il faut juste qu'il y ait un changement dans la Constitution. Parce que le gouvernement français, on a eu la réponse du Sénat dernièrement, pour dire que la France ne va pas ratifier parce que la France est un peuple indivisible. Mais la France reconnaît les autres peuples qui vivent en Amazonie, mais pas les peuples autochtones qui vivent sur ses propres terres.
L'objectif de cette convention 169, si je comprends bien, c'est de reconnaître les peuples autochtones.
Voilà, les droits des peuples autochtones. Beaucoup de pays l'ont déjà reconnu. Je vous dirais que ça n'a pas changé grand-chose pour certains pays. Les peuples autochtones sont toujours marginalisés. Mais comme la France se dit un pays de droit, pourquoi ne fait-il pas la même chose pour le peuple qui habite ici? Et je vais vous donner un autre exemple. Il y a les fonds d'urgence pour l'Amazonie, c'est-à-dire les fonds d'urgence pour lutter contre le COVID, quand il y a eu le grand incendie, maintenant pour le COVID. La France participe à ces fonds d'urgence. Oui, mais c'est fait pour les peuples qui vivent en Amazonie, mais pas la Guyane. Les peuples autochtones n'ont pas droit à ces fonds. Je pense que la France doit considérer que les peuples autochtones de Guyane sont mieux lotis que tous les autres peuples. Alors que c'est tellement difficile pour les habitants de l'intérieur qui n'ont pas accès à la santé. Donc quand ils sont malades, ils sont obligés soit de prendre le canot, soit de prendre l'avion ou de se faire rapatrier sur le littoral pour se faire soigner. Bien sûr, il y a des dispensaires, mais ce n'est pas suffisant.
Concrètement, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement porte-parole d'Hors de question. Là, tout ce dont vous décrivez, en fait, ça fait appel à votre casquette, si je puis dire, de présidente du collectif des Premières Nations, que ce soit avec Hors de question ou avec le collectif des Premières Nations. Quelle méthode de mobilisation est-ce que vous utilisez?
Nous faisons appel d'abord physiquement, s'il y a une mobilisation à faire physiquement, que les gens qui sont concernés nous rejoignent pour notre mobilisation, pour faire nos manifestations, et beaucoup aussi sur les réseaux sociaux.
Et si, par exemple, moi, Esther, qui vit à Paris, je voulais vous aider dans vos mobilisations, qu'est-ce que je peux faire ? Amplifier vos prises de parole, les relayer, signer des pétitions ?
Oui, les relayer sur vos réseaux, nationaux, internationaux aussi.
Et est-ce que vous avez le sentiment que votre parole, justement, elle porte jusque dans la métropole, jusque dans les médias nationaux ou pas ?
Oui, ça porte. Ça porte parce que nous avons aussi de la famille là-bas, des jeunes qui sont motivés. Et de temps en temps, nous sommes invités à prendre la parole dans des conférences. C'est l'année dernière, je suis allée à Lille pour participer à une conférence justement sur les mines.
Et quel est l'accueil que vous recevez généralement quand vous prenez la parole comme ça à Lille, par exemple ?
Il y avait des étudiants, beaucoup ne savaient pas ce qui se passait en Guyane au niveau de l'or, de la montagne d'or, au niveau des peuples autochtones. Donc, voilà, ils se sentaient concernés.
Et quel est le premier message que vous leur faites passer quand c'est comme ça ? Ce que vous voulez qu'ils retiennent ?
Leur dire que nous sommes un peuple en danger et qu'il nous faut des soutiens. Il faut qu'ils connaissent notre histoire, que notre histoire soit enseignée et que même si nous sommes à l'ère moderne, la colonisation continue, quoi.
Justement, pour qu'ils se renseignent sur votre histoire, est-ce que vous avez des ressources à leur conseiller ?
Vraiment, l'histoire amérindienne, l'histoire autochtone, il y a des livres qui sont écrits, c'est vrai, sur certains peuples, mais notre propre histoire même, par nous-mêmes, n'a pas été écrite.
Est-ce qu'il y a des témoignages à la place ?
Oui, il y a des témoignages. Il y a un livre sur qui a été écrit par un anthropologue, Gérard Colombe et Alexis Tchouka. C'est Nana Kalinia, c'est-à-dire nous, les Kalinia, qui est un livre historique, mais c'est le seul que j'ai. Il y a d'autres petits livres, mais ce qu'il faudrait, c'est que l'histoire de tous les peuples, nous étions des milliers en Guyane. Là, nous sommes, on va dire que six peuples. Moi, avant, j'aimais dire nous étions six nations. Nous sommes six nations. Mais maintenant, j'utilise le terme peuple. Peuple pour que la France sache qu'en Guyane, il y a des peuples qui ont des spécificités autres que les Français. Donc, je disais que l'histoire des six peuples ne sont pas racontées. C'est raconté par bribes. Chacun dans son petit coin, chaque anthropologue dans son petit coin raconte une histoire, mais globalement non.
Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez des milliers. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait estimer combien vous êtes parmi les peuples autochtones, parmi les Premières Nations que vous représentez ?
Je crois que nous sommes, je ne peux pas vous dire, 30 000, je crois. On avait fait le ressort, mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas affirmer. Mais je crois que nous sommes aux environs de 30 000, il faudra que je vérifie.
Mais vous étiez beaucoup plus nombreux auparavant, donc.
Ah, nous étions beaucoup plus nombreux et il y a des nations qui ont disparu.
Au cours de tous ces combats que vous menez, est-ce que vous avez eu des moments de découragement ?
Il m'arrive quand j'assiste à une commission des mines, et à la commission des mines, nous sommes trois représentants qui siègent à la commission des mines. On représente le Grand Conseil coutumier, qui n'est hélas que consultatif. Et quand je vois que notre vote n'est pas pris en compte, que nous sommes minoritaires, je suis un peu découragée, mais ce n'est pas grave. À certains moments, j'ai même dit que je ne voulais plus assister à cette mascarade de commission des mines. Mais j'y vais quand même.
Il y a qui d'autre dans le panel donc, de la commission des mines ? Qui est-ce qui siège à cette commission ?
Il y a les représentants de l'État, il y a les miniers, ils sont majoritaires. Et nous sommes il y a trois représentants de ces associations qui œuvrent pour protéger la nature. Il y a trois représentants et trois représentants des peuples autochtones. Voilà, nous sommes six et nous sommes toujours minoritaires.
Parce que l'État prend systématiquement le parti des miniers.
Voilà.
D'accord.
C'est comme ça que la mine Espérance est passée. Et la seule façon d'empêcher que les industriels miniers s'installent, c'est, interdire le cyanure. Et je sais qu'il y a un sénateur, je crois, monsieur Fabien Gay, qui avait demandé un moratoire sur le cyanure.
Et ça a été accepté ou pas?
Non, ça n'a pas été accepté. Voilà.
D'accord. Donc là, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi?
Pour l'instant, je ne sais pas, continuer à lutter pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones et continuer à se mobiliser sur les mines, continuer à assister à la commission des mines. Bien que ça, je ne crois pas trop. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour avoir partagé votre histoire et merci en tout cas pour tous les combats que vous menez surtout.
Merci à vous.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous.